Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Il est là. Salut.
Salut Bernard.
Écoute, les enquêtes de Christian Page.
Oui, effectivement.
Ça trouve tout son sens dans le cas de cette histoire d'OVNI au-dessus de l'Oregon. Et je vais te dire franchement, Christian, moi qui suis franchement très, très, très sceptique, là.
Oui, c'est renversant.
Ben, cette histoire-là, avec les bandes sonores déjà que tu nous as fait écouter,
oui.
Des militaires qui sont dans un F-15 et qui disent « on les voit
oui. ».
Il y avait même un pilote de ligne, si je me rappelle bien, qui
exact.
Disait « je vois l'objet », etc. Et tu nous avais confié que tu étais entré en communication avec, si je me rappelle bien, la Federal Aviation Authority.
Authority, exact, oui.
Tu nous disais qu'il y avait une base militaire pas très loin de là où les ovnis avaient été vus.
Oui.
C'était peut-être un avion expérimental et tout ça. Et là, les autorités enquêtaient. Et là, dans le fond, tu nous fais un peu le rapport aujourd'hui sur là où en est l'enquête sur ces ovnis, donc, qui ont été vus au-dessus de l'Oregon et qui ont été vus par des militaires dont les bandes sonores confirment qu'ils voient l'objet.
Voilà. Donc, tu l'as bien mentionné, c'était le 25 octobre 2017 que cet incident s'est produit. Puis il y avait un peu de confusion. Hein? On parlait l'objet sur radar et pas sur le radar. On savait pas trop. Comme tu le mentionnes, on sait que l'objet évoluait à la frontière de l'Oregon et de la Californie. Et ce sont des pilotes qui étaient en route vers Portland qui ont rapporté l'incident. Et comme l'OVNI se trouvait dans le corridor aérien des appareils civils, on a décidé d'envoyer la Garde nationale sur une demande de la NORAD ont décidé d'envoyer deux intercepteurs F-15 qui ont été incapables de retrouver l'OVNI en question.
Mais alors, est-ce qu'ils l'ont pas vu?
Ils n'ont pas eu de contact visuel. Les pilotes
non?
à bord
okay.
des avions civils, eux le voyaient, ils l'ont vu, mais le temps que les chasseurs F-15 arrivent sur place,
okay.
l'objet était plus visible. Ce qui est assez surprenant, tu l'as mentionné, au moment où j'ai évoqué cette histoire-là, c'est vrai que l'Oregon a une frontière commune avec le Nevada, et dans le Nevada, il y a une base ultra top secrète que probablement les auditeurs ont déjà entendu parler, et en particulier si on s'intéresse aux phénomènes étranges et mystérieux, c'est la base de la zone 51, la base de Groom Lake. On sait que depuis de nombreuses années maintenant, les autorités américaines, l'armée américaine, utilisent cette base pour développer les avions de demain. Donc, tous les appareils dernier cri sont sortis de cette base de la zone 51. Or, comme il y a cette frontière commune entre le Nevada et l'Oregon, on s'est dit peut-être qu'il s'agissait d'un prototype militaire qui aurait été observé.
Mm-hmm.
Et là, coup de théâtre, écoute, au cours des derniers jours, non seulement le Bureau de l'aviation civile, la Federal American Authority, et l'US Air Force, toutes les deux sont sorties pour dire « on ne sait pas ce que c'est ». Et là, c'est assez étonnant parce que même l'Air Force reconnaît qu'elle ne sait pas ce que c'est, quelle était la nature de cet objet. Et en même temps, non seulement ils sortent pour confirmer l'événement sans avoir d'explication, mais en même temps, ils rendent public toute une série d'enregistrements. En fait, il y en a pour des heures de communication entre les pilotes, tour de contrôle, d'un contrôleur aérien à une autre tour de contrôle. Écoute, j'ai choisi deux extraits ici, mais ça montre bien un peu l'étonnement qui se passe. Le premier enregistrement que tu vas entendre, c'est un type qui voit l'OVNI à ce moment-là. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. L'appareil a été détecté sur les radars alors qu'il évoluait quelque part juste à la frontière de l'Oregon et de l'État de Californie. Et là, il a été détecté sur les radars et soudain, il est disparu des radars comme si l'objet était tombé en mode furtif, mais à ce moment-là, les pilotes continuaient de l'observer. Donc, au mois d'octobre dernier, j'ai fait entendre les communications des pilotes. Là, je vais te faire entendre le premier contrôle.
Deux pilotes au pluriel. Ils sont deux ou trois.
Ouais, exact. Donc, deux ou trois. On parle d'avions civils. Je sais notamment qu'il y avait un appareil de WestJet qui était dans le secteur. Et là, ce que je vais te faire entendre, c'est un des premiers contrôleurs qui appelle un autre collègue contrôleur pour lui dire, coudon, t'as-tu quelque chose à 37 000 pieds d'altitude, toi, parce qu'à ce moment-là, il le voit sur le radar et on peut juger de son étonnement par la communication.
Do you know that target south of the boundary there, that 0027 code moving very fast at 37,000?
Oh, look at that thing.
Yeah, that's crazy.
Huh, and you don't have anything on him, huh?
I got nothing.
Well, look.
WestJet 1698.
No, the WestJet 1698 is about, he is at 370, and that dude is 150 miles to the north. of him.
I see him up there. That's crazy. That's fascinating.
Yeah, okay. All right, I'll report that.
Thanks, Senator.
Écoute.
Et là, on l'entend, il dit.
C'est pas du phoné ballonné, là,
non,
ça,
non,
là.
Pas du tout.
C'est
et
vrai,
là, il
là.
Dit...
C'est pas inventé,
non,
là.
Non, c'est surprenant. Et là, il dit, est-ce que tu sais où ce qui est le vol 60-98? Il dit, oui, oui, je le vois, mais il dit, l'objet dont tu parles, il le voit sur le radar. Il dit, il est à quelque chose comme 150 000 plus à l'ouest. Donc, ces gens-là voient à ce moment-là cet objet qui est sur les écrans radar.
Oui, puis là, l'autre, il dit, c'est fou.
Ouais,
c'est quoi cette affaire-là?
C'est complètement fou.
Ouais.
Et là, écoute, à partir de ce moment-là, ils vont suivre l'objet. Il disparaît des écrans radars. Et là, je te mets dans le contexte du deuxième extrait. Là, on a un type, un contrôleur aérien, qui appelle le contrôleur régional. Et là, il lui dit, écoute, je t'appelle, parce qu'on va l'entendre, il dit, je t'appelle à propos de... Et avant qu'il ait eu le temps de finir sa phrase, l'autre lui répond, il dit, tu m'appelles pour me dire ce qui se passe à 37 000 pieds d'altitude. Et je te laisse écouter, Bernard, tu vois la stupéfaction de la communication.
We just had a weird... thing to happen, kind of
37,000 feet.
Yeah,
coming to you. It's a real aircraft, but nobody knows who it is.
Really?
It's been reported by the pilot right behind them.
Really?
Yeah. And the target's been jumping around, but we have no code, no nothing.
Really?
Yeah.
Okay.
I was just going to call you and tell you that there could be a plane that's
at 37.
Yeah.
So another aircraft actually visually saw it.
Correct.
All right, well, that's getting even stranger. I was thinking that.
Écoute, c'est facile. Il dit, c'est un vrai aircraft.
Un aéronef. C'est un aéronef.
Mais il dit, personne ne sait c'est qui, mais
exact.
Le pilote qui est derrière a une confirmation visuelle.
Exact.
Et l'autre, il dit...
On le sent, hein? Really, really, tu sais, il n'y a pas comme, de... il ne sait pas trop quoi ajouter. Donc, je te rappelle que ces événements-là, donc la première détection radar se passe aux alentours de 16h30, on est le 25 octobre 2017, et tout l'incident va durer de très longues minutes, et ça va, les manifestations, en fait, l'OVNI, l'appareil inconnu, appelons-le comme ça, évoluer dans une altitude comprise entre 35 et 37 000 pieds.
Excuse-moi, 37 000 pieds, c'est pas une altitude inhabituelle, non?
Non, pas du tout. Généralement, les avions commerciaux vont évoluer entre 25 et 40 000 pieds. La vitesse de croisière et l'altitude de croisière étant surtout aux alentours de 30 000 pieds. Donc, on est ici exactement dans un corridor aérien à une altitude que pourraient utiliser des vols commerciaux, des vols civils. Mais comme on le voit, non seulement l'appareil n'a aucune balise de détection, il n'a aucune identité. Les gens des contrôleurs aériens ont tenté de communiquer avec cet aéronef inconnu sans obtenir d'informations. Et comme je l'ai mentionné, la Garde nationale a envoyé deux chasseurs pour l'intercepter sans pouvoir finalement le localiser.
L'autre chose qui est intéressante, c'est quand le contrôleur dit au collègue, il dit « It's been jumping around ».
Oui.
Tu sais, ça saute.
Voilà.
Ça saute, puis il dit « On n'est pas capable de savoir c'est quoi ».
Voilà, donc on a des manœuvres, et c'est ça qui est intéressant. Donc, on a les communications radio, ça se passe à ce même moment-là. Ce ne sont pas des témoignages obtenus des mois ou des semaines après l'événement.
Ça
se fait en direct à ce moment-là. Et on voit que les manœuvres, non seulement l'appareil ne répond pas aux critères d'un avion de civil, le fait que l'armée reconnaisse la nature inexplicable du phénomène semble bien indiquer que ce n'est pas un de leurs prototypes, parce qu'on comprend que l'armée aurait dit, on va étouffer l'affaire plutôt que d'attirer l'attention des médias là-dessus. Alors que là, c'est tout le contraire. Les médias vont sauter là-dessus comme des chiens sur un os. Tu comprends? C'est un incident aussi étonnant que celui-là.
C'est les autorités américaines qui ont rendu publiques les bandes que tu viens de nous faire entendre.
Voilà.
C'est la FAA, là?
Oui, la Federation Aviation Authority et l'US Air Force, conjointement, qui sont arrivés à la conclusion que, pour l'instant, on n'avait toujours aucune explication et que l'événement était bien réel. Donc, ils confirment ces manifestations aériennes. Pour l'instant, moi-même, j'étais... Il y en a pour à peu près 4 heures.
Où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'on peut les trouver sur Internet?
Sur le site du Bureau de l'aviation civile américaine.
C'est quoi en anglais?
La Federal Aviation Authority.
OK, c'est ça. OK, Federal
Aviation Authority, FAA.
Si, ouais, si tu veux, Bernard, écoute, je t'enverrai dans les prochaines heures, je l'enverrai pour que Larry puisse le mettre sur le site du 98.5. Écoute, il y en a pour des heures. Les gens qui sont intéressés par le phénomène des ovnis auront certainement de quoi se régaler parce que c'est surprenant.
Absolument, absolument. On va s'arrêter parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets dont on veut parler tout de suite après la pause, notamment là, toute cette histoire de l'arme sonique à Cuba. Là, ces personnes qui ont subi des lésions cérébrales.
Absolument.
C'est avéré maintenant par les autorités, encore une fois, mais on veut se garder du temps, Christian. On va à la pause et on en parle tout de suite après.
Parfait.
De retour avec Christian Page et nos mythes et complots, notre chronique insolite. Et là, parle-nous de cet autre chapitre dans l'histoire de la Havane, là, puis des employés de l'ambassade des États-Unis à la Havane.
Oui, on a l'impression que c'est une histoire qui n'en finit plus de finir, finalement, parce qu'on en a parlé à quelques reprises à l'émission. Mm-hmm. Ce sont des incidents qui se sont produits entre 2016 et 2017. Donc, ce sont des employés de l'ambassade américaine à Cuba, la Havane, qui ont commencé à souffrir de toutes sortes de troubles. Hein, d'abord, ils se sont plaints de vertiges, des maux de tête, des douleurs aux oreilles, bon, etc., etc. Et éventuellement, ces gens-là, on les a ramenés aux États-Unis et ils ont suivi un traitement médical. Il y a eu un suivi médical. Et là, voilà, on a accusé finalement la Havane d'avoir utilisé une espèce d'arme sonique pour indisposer les employés américains de l'ambassade. Tout ça n'a jamais été confirmé. Mais là, voilà que le Journal of the American Medical Association publie il y a quelques jours un rapport médical réalisé par les scientifiques de la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie. Ces gens-là ont suivi 21 employés du gouvernement qui étaient en poste à la Havane et ils arrivent à la conclusion que ces gens-là souffrent. Et là, il faut se tenir, c'est quand même incroyable. Ces gens-là souffrent de lésions cérébrales sans traumatisme crânien. Ce qui est assez surprenant. Donc, on le sait, un traumatisme crânien va entraîner parfois des lésions cérébrales.
Ben
ces gens-là ne présentent absolument aucune anomalie de ce genre, simplement des lésions cérébrales et comme s'ils avaient eu des traumatismes crâniens, ce qui n'est pas le cas. Et pour l'instant, les médecins n'ont absolument aucune idée comment expliquer cette situation.
C'est vraiment une sorte de mystère scientifique.
Absolument. Là, pour l'instant, les médecins écartent la possibilité d'un virus ou d'une substance chimique. Et on le sait, on l'a mentionné là, cet automne, on avait posé la question à des scientifiques de l'Université Harvard qui, eux, rejetaient la possibilité d'une arme sonique. Pour eux, tout ça semble un peu sorti de la science-fiction.
Des ultrasons, maintenant. Cette hypothèse-là, elle a été rejetée, là,
pas entièrement écartée, mais peu vraisemblable. Et là, pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'il s'agit d'une attaque ciblée, mais on reconnaît que les gens qui ont souffert ou qui continuent de souffrir de ces lésions, ben évidemment, elles ont encaissé le coup, si je peux dire, alors qu'elles étaient en poste à la Havane et personne n'arrive à expliquer la source de ces maux qui les troublent. Alors, au moment où on se parle, il y a tout un débat. On le sait que les Américains ont ramené leurs employés de l'ambassade américaine. Ils les ont ramenés aux États-Unis. On sait que le gouvernement américain a également expulsé des représentants de Cuba qui ont été retournés dans leur pays. Alors, c'est un peu un bras de fer. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des explications exhaustives sur la situation, le mystère demeure. Donc, pour
Christian,
l'instant,
écoute ça. Je viens de recevoir un texto de quelqu'un qui travaille pour le gouvernement canadien, quelqu'un de bien placé, qui me dit « J'écoute ton show sur les lésions à la Havane. Ça s'est pas passé seulement à l'ambassade américaine, ça s'est passé à l'ambassade canadienne. »
Oui,
aussi.
On a trois personnes de l'ambassade canadienne qui se sont plaints également de maux semblables. Donc, ce ne sont pas essentiellement, ton correspondant a tout à fait raison, ce ne sont pas essentiellement des employés de l'ambassade américaine, mais puisqu'on a aussi trois employés de l'ambassade canadienne qui se sont plaints de maux similaires.
Est-ce que c'est les mêmes lésions qu'on a observées chez les trois employés de l'ambassade?
Pour les employés de l'ambassade canadienne, je n'ai malheureusement pas de suivi ou de rapport médical. Mais j'imagine que, comme ils présentent des maux assez analogues à ceux qui ont été rapportés aux États-Unis, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'ils doivent souffrir de maux assez semblables à ceux qui ont été enregistrés, notés par les gens de la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie.
Eh bien, il nous reste 2 minutes. Parlons de Poltergeist.
Oui, écoute.
Poltergeist, t'as 2 minutes.
Ah oui, écoute, au moment où je te parle, j'ai le rapport de police sous les yeux. Il était écrit en russe. Fait que je remercie notre recherchiste Alexandra de l'avoir traduit en français. Donc, en effet, c'est une affaire assez incroyable. Ça se passe le 12 février dernier. C'est la police russe qui est appelée dans un petit village, le village de Maraska, qui se trouve à 330 kilomètres au nord ouest de Tomsk. Et ces gens-là, les policiers sont appelés parce qu'il y a apparemment des perturbations inexplicables dans une petite maison unifamiliale. Les policiers arrivent sur place. La maison est occupée par un couple et leur fils adoptif. Et là, ils constatent. Et là, écoute, je te le dis, j'ai le rapport sous les yeux. Là. On nous mentionne que les meubles bougent tout seuls. Les penderies se vident de leur contenu. Il y a même un couteau qui s'est fiché dans le mur de la cuisine.
Oh boy!
Et au moment où les policiers écoute, Bernard, au moment où les policiers enregistrent leur déposition,
Poutine apparaît!
Non!
Poutine apparaît!
Les policiers sont eux-mêmes témoins de ces meubles qui se déplacent, ça se passe sous leurs yeux. Alors, incapables de trouver une explication, le rapport de police nous dit qu'ils s'en sont ouverts à une communauté, à l'église orthodoxe locale, et qui, eux, ont envoyé un prêtre qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Mais au moment où on se parle...
Il va essayer d'exorciser la maison,
parce qu'on ne connaît pas trop la cause. Mais au moment où je te parle, écoute, j'ai le rapport de police en russe sous les yeux et ça semble tout à fait légitime. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a des informations qui nous arrivent de la Russie, hein, oui. Tu connais l'expression « un beau mentir qui vient de loin », on peut toujours se poser des questions. Mais là, écoute, j'ai le rapport sous les yeux.
Mais je ne savais pas qu'Alexandra parlait russe. Mais
non, elle a utilisé quelques applications sur Internet pour aider Marie finalement avec une traduction. Bravo, Alexandra.
Et qu'on est débrouillards dans cette équipe.
Qu'on est débrouillards, effectivement. Bravo à toute l'équipe.
Christian Page, toujours un plaisir.
Ça me fait plaisir, Bernard.
Et justement, l'équipe, Alexandra Marcoux, la traductrice et recherchiste à 16 heures, Maryse Duchesneau aussi, recherchiste, Larry Dufresne à la mise en onde et réalisation. Merci à vous trois. Merci à vous, les auditeurs. Vous êtes super. Il y a Paul Oud qui s'en vient avec le Québec maintenant. On se reparle lundi. Salut, bonne fin de semaine.